chers camarades, chers amis, nous sortons donc d'une année électorale. Pendant un an, nous avons eu droit au cirque habituel du changement et du renouveau. Tous les candidats, et Macron en premier, ont promis que plus rien ne serait jamais comme avant. Tout ça pour que ce nouveau président de la République reprenne les attaques anti-ouvrières exactement là où Hollande les avait laissées. Macron se prétend moderne, il nous resserre la vieille soupe patronale, la baisse de l'impôt sur la fortune, la baisse des impôts patronaux, la casse du code du travail, et c'est toujours le même mensonge. Facilitons les licenciements et il y aura des embauches. Mettons de la flexibilité, cela créera des emplois. Que les riches s'enrichissent et cela ira mieux pour tout le monde. Cela fait 20 ans. 30 ans que tous les politiciens de droite et de gauche nous chantent ça. Les cotisations patronales ont été baissées. La flexibilité et la précarité s'est généralisée. Le code du travail a été révisé 3 fois, 5 fois, 10 fois. Pour quel résultat? Est-ce que le chômage a baissé? Est-ce qu'il y a plus d'embauches pour les jeunes? Non, bien sûr. Tout ce qui a augmenté, ce sont les dividendes, la rentabilité et les profits. Comme Sarkozy et Hollande, Macron s'en prend aux travailleurs et aux plus pauvres pour faire de nouveaux cadeaux aux plus riches et pour que la bourgeoisie et la finance prospèrent. L'année 2017 s'annonce déjà comme un creux exceptionnel, avec, rien que pour le premier semestre de l'année, 52 milliards de bénéfices annoncés pour les entreprises du CAC 40. Et avec cette politique, c'est certain, ça va continuer. Macron était l'homme de la finance et de la grande bourgeoisie quand il travaillait chez Rothschild. Eh bien, il l'est aujourd'hui en tant que président de la République. Alors oui, tous ceux qui se sont déjà mobilisés contre sa politique ont eu 1000 fois raison de le faire. Et il faut se saisir de toutes les possibilités pour continuer. Il faut que la protestation se fasse entendre et qu'elle s'amplifie. Chaque budget de l'État est un plan d'attaque contre le monde du travail. Et celui de 2018 ne déroge pas à la règle. Pour les plus riches, c'est plus de 5 milliards de cadeaux. Pour les classes populaires, c'est la hausse de la CSG de 1,7 point, l'augmentation du prix des carburants, l'augmentation du forfait hospitalier, du paquet de cigarettes. C'est la baisse des APL, 50 euros par mois, la suppression de 120 000 contrats aidés. Dans la fonction publique, les salaires seront gelés, le jour de carence rétabli et 1 600 emplois seront supprimés. Après tout ça, le gouvernement assure que la grande majorité des classes populaires n'y perdra pas parce que dans le même temps, il va supprimer beaucoup, pour beaucoup la taxe d'habitation et baisser les cotisations salariales des plus bas salaires. Ce sont des tours de passe-passe. Le gouvernement donne d'une main pour reprendre de l'autre. Nous paierons de 1000 façons la quasi-disparition de la taxe d'habitation. Parce que les municipalités augmenteront le prix des cantines. Parce qu'elles réduiront l'accès aux équipements publics. Le gouvernement assure qu'il imposera aux HLM de baisser leurs loyers pour que la baisse des APL soit indolore. Ça aussi, cela nous retombera dessus. Parce que les bailleurs sociaux qui manquent déjà d'argent entretiendront moins bien leurs bâtiments et construiront moins. Les retraités seront les premiers à payer la politique de Macron. Avec cynisme, ce dernier a expliqué que l'on peut leur demander un effort de solidarité parce que, je le cite, « les pauvres sont souvent moins les retraités que les jeunes ». Il demande la solidarité entre pauvres. D'abord, on n'a pas attendu Macron pour être solidaire. Et surtout, on n'a pas à accepter d'être dépouillé au profit des riches. Il n'y a rien d'autre à attendre du gouvernement actuel que des coups. Ces coups, il les a annoncés. Et quand on entend les responsables syndicaux ou politiques dire qu'il faut attendre de voir le contenu de tel ou tel texte pour se positionner, ils endorment les travailleurs. Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. La réforme du logement, de la formation, du chômage, de la retraite seront de nouveaux reculs pour les classes populaires. Macron est le représentant de la bourgeoisie. Il a son arrogance, le mépris de classe, et il en sera le serviteur zélé, il n'y a pas de doute. Mais l'offensive contre les travailleurs dépasse les choix d'un Macron. Elle est d'abord le fait de la bourgeoisie, de cette classe qui domine l'économie et qui mène une lutte de classe acharnée contre le monde du travail pour accroître l'exploitation et son parasitisme sur l'économie. Et ces reculs contre les travailleurs, eh bien, ils sont inscrits dans le système capitaliste lui-même. Et dans le contexte de crise économique, cette lutte de classe ne peut qu'être toujours plus acharnée. La bourgeoisie ne peut plus espérer accroître ses profits au travers de l'extension de ses marchés. Ils sont saturés, la concurrence est exacerbée. Elle ne peut donc les augmenter que dans le parasitisme croissant de la finance et dans l'aggravation de l'exploitation du monde ouvrier. Les profits supplémentaires des entreprises du CAC 40, eh bien vous pouvez être sûr qu'ils ont été pris sur les travailleurs, sur leur salaire, sur leur emploi, sur leurs conditions de travail, sur leurs congés. Macron a été élu pour servir la bourgeoisie alors qu'elle est confrontée à la persistance de la crise de l'économie capitaliste et qu'elle mène une guerre à mort contre le monde du travail. Dans ce contexte, il n'y a jamais eu et il ne peut y avoir d'état de grâce pour le président de la République. Nous allons vers une période d'instabilité politique et sociale. Et le simple fait que Macron soit contesté au bout de 4 mois, alors qu'il avait fallu attendre 4 ans pour que les travailleurs se manifestent contre Hollande, le montre. Et cette contestation, eh bien, elle peut venir de tous les côtés. Bien des petits artisans et commerçants subissent aussi les conséquences de la crise. Une fraction du patronat et de la petite bourgeoisie souffrent de la finance et du pouvoir de l'argent. Eux aussi, ils ont leurs problèmes et leurs revendications. Et ils savent très bien se battre. On se souvient des manifestations des chauffeurs de taxi, des différents coups de colère des agriculteurs, y compris des coups de gueule des policiers. Alors on pourrait se dire que tout ça c'est très bien, que cela participe d'une seule et même protestation. Mais ce n'est pas vrai. Si les travailleurs regardent les autres catégories sociales se plaindre et revendiquer sans se battre eux-mêmes pour leurs intérêts, pour leur propre classe sociale, eh bien cela leur retombera dessus. Parce que si Macron cède sur certaines revendications des artisans ou des commerçants, il le fera payer aux travailleurs. Alors la seule conclusion que nous avons à tirer, c'est que nous ne devons pas rester muets. Laisser la protestation à des catégories sociales liées au patronat, à la propriété privée, à l'ordre bourgeois, ne peut que tirer la société dans un sens réactionnaire. Il faut que le monde du travail fasse de la politique en mettant en avant ses intérêts de classe contre la classe capitaliste. Nous ne sommes pas condamnés à subir pendant 5 ans les coups d'un Macron. Il a un Parlement à sa botte. Tant que le monde du travail reste sans réaction. Mais le jour où le monde du travail se lèvera, le jour où la bourgeoisie sentira à nouveau le volcan en éruption sous ses pieds, comme elle l'a senti en mai-juin 1936 et plus près de nous en mai 68, eh bien tout peut changer. Pour ne prendre que l'exemple de 68, avant la mobilisation, De Gaulle était présenté par le Parti communiste français et la CGT comme incarnant un pouvoir fort. C'était le prétexte pour justifier leur passivité et leur politique électoraliste. Tout était suspendu aux prochaines élections, susceptibles d'éliminer De Gaulle. Et puis, il y a eu l'explosion de mai-juin. Des grèves se sont répandues comme une traînée de poudre dans tout le pays. Elles ont permis aux travailleurs de conquérir de nouveaux droits et elles ont conduit De Gaulle à la démission. Et Macron n'est pas De Gaulle, loin de là. Alors, tout dépend de la capacité des travailleurs à reprendre confiance dans leurs forces. Les dirigeants des confédérations syndicales s'érigent en avocats des travailleurs. Vous avez peut-être suivi les déclarations de Mailly pour justifier sa non-participation aux manifestations contre la loi travail. Son job, disait-il, était de faire valoir les intérêts des salariés dans les cabinets ministériels. Et il l'a fait. s'arrêter là. Tant pis si le patronat et le gouvernement n'ont rien voulu entendre. Eh bien, fort heureusement, le monde du travail a d'autres moyens pour se défendre que les plaidoiries d'avocats comme Mailly, Berger ou Martinez. Les mobilisations du 12 et du 21 septembre ont montré que bien des travailleurs n'acceptaient pas les ordonnances Macron et l'offensive capitaliste. Eh bien, cela ne doit être qu'un début. Les travailleurs gardent toutes leurs forces collectives, leurs armes de classe, les grèves, les manifestations, les occupations d'usines, et nous espérons bien qu'ils s'en serviront. Aujourd'hui, certains travailleurs, des militants de gauche, des camarades au travail, pensent qu'on n'a finalement que ce que l'on mérite, qu'il fallait bien voter, et que si Mélenchon avait été élu, on ne serait pas dans la même situation. Eh bien, si, on serait fondamentalement dans la même situation. On serait confronté à la même rapacité patronale, à la même dictature de la finance, à la même offensive de la bourgeoisie. Et le président Mélenchon accompagnerait cette offensive, comme Hollande, Jospin, Mitterrand l'ont accompagné en leur temps. Face à l'attaque de Macron et du grand patronat, beaucoup parmi nous ressentent le besoin d'une solution politique. Oui, la réponse doit être politique. Mais la réédition d'une énième union de la gauche est contraire aux intérêts des travailleurs. L'union de la gauche, nous l'avons eue avec Mitterrand, Jospin et Hollande, qu'il a réalisée au second tour de 2012. Et c'est leur politique qui nous a conduit à l'état de démoralisation et de désorientation où se trouve aujourd'hui la classe ouvrière. Parce qu'il ne peut pas y avoir de bon gouvernement de gauche dans le cadre du système capitaliste. À partir du moment où le gouvernement, où le président gouverne dans le cadre de la domination des capitalistes, en respectant la propriété privée de la bourgeoisie, en acceptant la loi du profit, de la concurrence, eh bien il se voue à servir les intérêts de cette classe bourgeoise. Dans la société bourgeoise, le gouvernement est le conseil d'administration de la bourgeoisie, disait Lénine. Combien de fois l'avons-nous vérifié, y compris quand le gouvernement se prétendait de gauche? Tant que la bourgeoisie dominera la société et l'économie avec son capital, on nous amusera avec les élections et les changements de gouvernement, mais nous continuerons de subir sa dictature. Cela changera si les travailleurs se lèvent, arrachent le pouvoir à la bourgeoisie, s'ils mettent fin à la propriété privée des moyens de production, à la concurrence et à la loi aveugle du profit. Cela changera lorsque les travailleurs se porteront eux-mêmes à la direction des entreprises et de la société, comme cela s'est produit lors de périodes révolutionnaires, au moment de la Commune de Paris ou de la Révolution russe. Le sort des opprimés ne peut changer qu'au travers d'une révolution. Au travers d'une période où des millions de femmes et d'hommes décidés à ne plus subir, agissent et se dépassent pour prendre collectivement leur sort en main. Dans la plupart des pays, ce sont les événements révolutionnaires qui ont marqué l'histoire. Pas les noms des présidents ou les changements institutionnels, que tout le monde d'ailleurs a oublié. Il y a eu une révolution en Angleterre dans les années 1640. La Révolution française de 1789. En 1848, toute l'Europe fut secouée par une vague révolutionnaire. En 1871, il y eut la Commune de Paris. La Révolution mexicaine en 1911. La Révolution russe en 1917, qui entraîna dans son sillage révolutionnaire la Finlande, la Hongrie, l'Allemagne, la Chine. En 1936, il y eut la Révolution espagnole. Puis, plus tard, les soulèvements des peuples colonisés, avec, entre autres, les révoltes indochinoises, algériennes, cubaines, et j'en passe. Ce sont ces périodes qui ont fait l'histoire. C'est l'élan révolutionnaire, ce bouleversement des consciences qui transforme des millions de femmes et d'hommes et qui ouvre des perspectives à toute la société. C'est pour ce genre de période que nous militons. Et nous militons pour que les travailleurs qui portent en eux la possibilité de construire une société sans classe bourgeoise dominante, sans exploitation et sans frontières, puissent prendre la tête de cette révolution. Et mais ce n'est pas une utopie. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et l'exercer pour transformer la société par en bas, pour en créer une radicalement différente, basée sur la propriété collective. Cette révolution a dégénéré et elle a débouché sur une des pires dictatures du XXe siècle, c'est vrai. Mais les amalgames systématiques entre la dictature stalinienne, les goulags, et de l'autre côté la révolution et l'idéal communiste sont insupportables. Et je rappelle au passage que les anticommunistes ne mettent jamais sur le compte du capitalisme les dictatures pourtant tout aussi féroces des Mussolini ou des Hitler. Alors il ne faut pas marcher dans la réécriture de l'histoire. Les détracteurs de la révolution russe veulent nous faire croire que les idées de Marx et de Lénine sont inapplicables et dangereuses. Autrement dit, il n'y aurait rien à garder de la révolution russe. Eh bien, nous pensons exactement le contraire. Cette révolution est une période dont les travailleurs du monde entier peuvent être fiers et qui ne peut que conforter ceux qui aspirent à changer le monde. Car ce sont bien les ouvriers et les paysans russes qui réussirent en février 1917, au bout de 5 jours d'insurrection, à renverser un rempart de l'absolutisme en Europe, la dynastie des Romanov, qui régnait depuis 3 siècles et qui avait transformé la Russie en prison des peuples. C'est la révolution des ouvriers et des paysans qui imposa la paix, alors que ces grandes démocraties, que sont la France et la Grande-Bretagne, voulaient à tout prix poursuivre, pour leurs intérêts impérialistes, cette boucherie immonde qui engloutissait jour après jour des milliers de vies. Et avec le parti bolchevique, les ouvriers et les paysans russes réussirent à s'emparer du pouvoir. Au travers des soviets, des conseils, des délégués, choisis dans les usines, dans les régiments et dans les villages, ils construisirent une démocratie ouvrière. Ils firent naître un pouvoir ouvrier, où les généraux étaient tenus en respect par de simples soldats, où le paysan journalier faisait fonction de maire dans son village, où le lampiste d'autrefois mettait de l'ordre dans les transports. Comme le raconte un journaliste américain, témoin de ces événements, je le cite, « Les soviets étaient donc composés non de politiciens bavards et ignorants, mais d'hommes qui connaissaient leur métier, de mineurs qui savaient ce qu'est une mine, de mécaniciens qui savaient ce qu'est une machine, de paysans qui savaient ce qu'est la terre, de soldats qui savaient ce qu'est la guerre, d'instituteurs qui savaient ce que sont des enfants. » Et ces soviets, avec à leur tête les bolcheviks et Lénine, firent ce qu'aucun gouvernement n'a jamais fait. Aussitôt nommé, le gouvernement soviétique publia les traités secrets qui avaient été signés entre la Russie et les puissances impérialistes. Il décréta la réforme agraire la plus radicale qui soit, en abolissant immédiatement et sans aucune indemnité la propriété des propriétaires fonciers et en distribuant la terre aux paysans qui voulaient la cultiver. Il organisa le ravitaillement et la production pour répondre aux besoins urgents de la population, en contrôlant et en expropriant quand la population ne voulait pas collaborer. Il trouva un toit pour tous, en imposant aux familles bourgeoises de se serrer un peu et en transformant leurs hôtels particuliers en logements collectifs. Il donna la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il reconnut l'égalité des droits aux femmes. Il légalisa le divorce, l'avortement. Il tenta de les libérer aussi de leurs tâches domestiques, de sorte qu'elles puissent être associées à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé cela ? Aucun. Alors, même si le stalinisme a finalement pris le dessus en déformant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien on ne peut pas effacer ce qui a été réalisé. La révolution russe est la preuve que les travailleurs sont capables de transformer la société comme aucune autre classe sociale. En 1848, Marx et Engels commençaient le manifeste du Parti communiste par la célèbre phrase « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme ». Eh bien, la révolution russe a transformé le spectre en force bien réelle qui a ébranlé le monde et qui nous conforte encore aujourd'hui dans notre conviction et dans notre volonté de changer la société. Que les travailleurs s'emparent du pouvoir économique et politique par en bas, en construisant leurs propres organes de contrôle et de pouvoir, voilà notre perspective. Cette conviction profonde nous sépare de la politique des partis réformistes que sont le PCF et la France insoumise de Mélenchon. Cette perspective nous distingue sur le long terme, mais elle nous différencie aussi au quotidien, dans la façon de militer, de tourner toute notre politique et nos efforts vers la classe ouvrière et vers les luttes qu'elle mène. Et puis cela nous distingue aussi dans la façon de participer au moindre mouvement de grève et au moindre mouvement et de la façon de mener la moindre grève. À l'inverse des partis réformistes qui sont intégrés dans les institutions et dans la gestion du système et qui n'ont de cesse de se montrer responsables vis-à-vis de la bourgeoisie, nous n'avons aucun fil à la patte et nous sommes en mesure non seulement de soutenir inconditionnellement les travailleurs qui se battent sur la base de leurs intérêts de classe, mais nous sommes aussi pour qu'ils aillent au bout de toutes leurs possibilités. Nous ne craignons pas que les luttes des travailleurs aillent trop loin, qu'elles empiètent sur la propriété privée ou qu'elles déclenchent l'affrontement général. Et nous militons pour que ces luttes soient dirigées par les travailleurs eux-mêmes. Nous militons pour qu'à chaque mobilisation, aussi minime soit-elle, ils puissent discuter et décider eux-mêmes de leur action. Et cela aussi, c'est une différence que nous avons, en particulier avec le parti de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne se situe pas seulement dans le cadre du capitalisme. Ce n'est pas seulement un réformiste dans la plus pure tradition des socialistes. C'est aussi un politicien étranger à la classe ouvrière. Son problème n'est pas d'armer la classe ouvrière. Ce n'est pas de lui apprendre sa propre force. Ce n'est pas de la conduire à agir par elle-même. Nous, c'est notre raison d'être. Nous militons pour que la classe ouvrière accède à la conscience que la tâche de transformer la société dépend d'elle et qu'elle en est capable. Le monde du travail est sans cesse rabaissé quand les patrons et la bourgeoisie sont mis sur un piédestal. À les entendre, ce sont eux, les patrons, qui donnent du travail aux salariés. Ce sont eux, les patrons, qui font vivre les salariés. Mais qui mouillent sa chemise sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics, qui s'escapent la santé sur les chaînes de montage de l'agroalimentaire, de l'automobile, qui se dévouent au chevet des malades, des anciens, qui se lèvent à 3h30 du matin pour que le courrier soit distribué, qui se ruinent la santé pour permettre à des géants de la distribution comme Lidl de faire leur profit, ainsi que l'a montré un reportage cette semaine. Et en plus de faire tout le travail intellectuel et manuel, eh bien, nous produisons aussi le profit qui est exigé par le capital. Alors n'en déplaise à la bourgeoisie et derrière elle, à la kyrielle des petits patrons méprisants et arrogants, c'est notre classe, c'est le monde du travail qui les fait vivre. C'est nous qui entretenons cette petite frange d'ultra-riches. Et nous l'entretenons au premier sens du terme, car même dans leur quartier réservé, même dans leur palace, même sur leur yacht, ils ont besoin de leur femme de ménage, de leur chauffeur, de leur cuisinier, de leur comptable. Oui, collectivement, les travailleurs produisent toutes les richesses et ils résolvent nombre de problèmes techniques. Mais parce qu'on leur met dans le crâne, ou alors dans le biberon, que finalement, ils n'ont pas les compétences pour diriger et qu'il faut pour cela compter sur les patrons. On nous rabâche que pour faire fonctionner l'État, il faut avoir fait de hautes études, appartenir aux élites, parce que certains seraient qualifiés pour diriger, il faut les laisser faire. Il faut s'opposer à cette idée-là. Collectivement, les travailleurs sont tout à fait capables de diriger la société. Et ils le feraient mille fois mieux que les capitalistes et leurs sbires politiciens, parce qu'au pouvoir, ils ne seraient pas aveuglés par le profit. Et il faut tout le culot d'un ex-banquier dont toute la classe sociale roule sur l'or et se vautre dans un luxe insolent pour accuser d'égoïsme ou de corporatisme les travailleurs quand ils revendiquent. Au contraire de la bourgeoisie, lorsque les travailleurs défendent leurs intérêts, ils représentent ceux du plus grand nombre. Et ils représentent même l'avenir de l'humanité. Parce que, et je finirai là-dessus, l'enjeu du combat qui oppose Le monde du travail à la bourgeoisie et au capitalisme dépasse la défense de nos droits matériels. Il n'y a pas que l'effondrement de l'économie et la montée de la pauvreté qui nous menacent. Il y a aussi les dérèglements écologiques, les menaces guerrières, le terrorisme. En réalité, la domination de l'argent et le capitalisme pourrissent tout. Ils désagrègent les rapports humains, ils détruisent la planète et menacent la survie de l'humanité. Oui, le combat des travailleurs, qui n'ont rien à perdre que leur chaîne, est le seul à offrir une issue. De la même façon qu'ils font aujourd'hui tourner toute la société pour le compte des capitalistes, les travailleurs sont capables demain de la faire tourner pour les intérêts collectifs de la grande majorité. Aucune autre force sociale ne recèle cette force révolutionnaire et cette capacité de transformer et de reconstruire une société. Dans le passé, de grands partis ont défendu cette perspective. Aujourd'hui, il n'en existe plus. Bien, c'est ce parti que nous voulons reconstruire. Alors, si vous en êtes d'accord, eh bien, aidez-nous à faire en sorte qu'il y ait des femmes et des hommes pour défendre autour d'eux, dans les entreprises et dans les quartiers populaires, cette perspective de transformer la société pour créer une société communiste.